On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Les colonies d'abeilles s'affaiblissent à l'étranger, mais aussi sur notre territoire. Or, les abeilles sont les principaux acteurs de la biodiversité et sont essentielles à la reproduction des espèces végétales. Carbone Zéro est parti à la rencontre d'Éric, un apiculteur, et André Fry, le président du syndicat des apiculteurs. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des abeilles aujourd'hui ?
Peut-être une prise de conscience, quoi. Jusqu'à présent, il y avait peut-être moins de pertes. Aujourd'hui, ben, en plus de la prise de conscience écologique, enfin, tout le monde s'y intéresse un peu, se rend compte que finalement, on a perdu certaines choses, certaines pratiques. On a, par-dessus tout cela, des pertes massives, en fait, hein, d'abeilles. Hein. La moyenne dans le Bas-Rhin, c'est quand même 35%. Ce qui est quand même énorme, donc ça fait se poser des questions un peu à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive ? Perte de biodiversité, des parasites, on parle d'un syndrome d'effondrement des ruches. Ou est-ce que les pesticides sont aussi entièrement en cause ? À voir. Hein,
on ne sait pas trop en fait, il n'y a pas aujourd'hui une cause qui est liée à la disparition des abeilles.
Non, pour moi c'est multifactoriel. Hein. Il y a quand même pas mal d'études en cours, mais on n'a pas encore de réponse très très nette là-dessus. Hein. Il y a encore une petite part de mystère, mais après... Il y a des choses, de toute façon, on sait qu'elles ne sont pas là. Bon. Elles ne sont pas innocentes, disons, dans la perte des colonies. Sans abeilles, je sais pas, je ne donne pas long feu à la planète, disons, s'il n'y avait vraiment plus d'abeilles. Quoi. C'est plus une réaction logique, on va dire, hein, par rapport à nos connaissances sur les pollinisations.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires ou de livres qui sortent sur les abeilles et la santé des abeilles, et on parle de disparition des abeilles.
Alors, moi, je me situe, nous, en tant qu'exploitant apicole, hein, on se situe avec une expérience, donc une expérience de terrain et puis des chiffres, et non pas des on-dit. Hein. Il y a quelques années, il y a encore une dizaine d'années, les mortalités normales, estimées comme normales au niveau de notre exploitation, mais des exploitations en général, c'était de l'ordre de 10 à 15%. Donc à savoir qu'avec un hiver plus ou moins dur, on avait parfois 6-7% de pertes. Un hiver qui était plus dur, on avait jusqu'à 15% de pertes. C'était quelque chose de normal. Or maintenant, depuis sur l'exploitation, sur la nôtre, ici au Chez du Bonhomme, on est passé à des taux de mortalité qui sont de l'ordre de 25 à 30, 40% et cette année même 50%. Donc ce sont des chiffres réels, hein, c'est pas des... c'est ça, c'est du chiffre constaté. C'est des mortalités qui sont beaucoup plus importantes. Et la question évidemment derrière, c'est de nous dire, alors nous d'abord on se pose la question au niveau de notre méthode de travail, est-ce qu'on travaille bien ? Donc on regarde par rapport à ce qu'on faisait avant, on est passé en bio sur l'exploitation avec des produits de traitement qui sont certainement moins efficaces, donc on met une part de mortalité dessus, mais il y a aussi d'autres choses qu'on a du mal à expliquer. Et notamment des apiculteurs en conventionnel, des collègues qui sont en conventionnel, donc qui ne touchent pas au bio spécialement, et qui ont aussi ces augmentations de mortalité. Quoi. Et alors on nous pose toujours la question, c'est dû à quoi ? Moi j'ai souvent tendance à répondre, il y a à peu près autant d'explications que de spécialistes qui se penchent sur la question. Comme il y a beaucoup de monde qui se penche sur la question, on a beaucoup d'explications. Mais ça tourne en fait autour de quand même plusieurs gros axes, des aspects sanitaires.
On entend beaucoup parler des abeilles parce que quelque part, c'est rentré dans le conscient des gens que l'abeille a son utilité sur cette terre. Il y a 20 ans, 30 ans, on parlait de mortalité des abeilles déjà. Mortalité due aux différents traitements, principalement chez nous dans le vignoble, quand les hélicoptères à l'époque traitaient les vignes. On ramassait les abeilles devant les ruches à l'appel. Hein. Mais c'était d'autres molécules, moins nocives, mais bon, l'abeille en mourait quand même, mais elle venait mourir à la ruche. Maintenant, avec les molécules que nous connaissons, les matières actives que nous avons, l'abeille ne revient même plus à la ruche. Elle meurt à l'extérieur, puisque c'est des nicotinoïdés, donc c'est des molécules qui ça attaque le système nerveux, et elle ne peut même plus revenir à la ruche. Et on sent d'ailleurs nos ruches qui, à certains moments, baissent ou ont des problèmes. Nous avons maintenant différentes mortalités. Nous avons les mortalités, ce qu'on appelle les mortalités hivernales, donc à la sortie de l'hiver. Hein. Si je me place il y a 30, voire 40 ans, 40 ans je ne faisais pas encore d'apiculture, mais il y a 30 ans, on avait toujours deux ou trois ruches qui ne passaient pas l'hiver et qui étaient mortes à la sortie de l'hiver. Ça, c'était régulier, c'était normal. Hein. Maintenant, ce ne sont plus deux ou trois ruches, c'est de l'ordre de 10, 15. Il y a des apiculteurs qui perdent 70% de leurs ruches. Hein. Et alors, on a des phénomènes tout à fait particuliers dans le sens qu'il y a des abeilles qui sont mortes dans la ruche, carrément mortes. Hein. On retrouve les abeilles par terre. Et il y a un phénomène qui fait que l'abeille, elle quitte la ruche. La reine, ainsi que les abeilles, quittent la ruche. Il n'y a plus personne. Donc, c'est des phénomènes qu'on constate au printemps, à la sortie de l'hiver, à l'ouverture des ruches. Hein. Et donc, on peut expliquer certaines choses. Varroa est une partie de l'explication, mais varroa n'est pas tout. Le varroa, c'est un acarien qui s'installe, qui se fixe sur le dos de l'abeille et qui lui suce les molinfes. Et de ce fait, l'abeille va naître atrophiée, pas d'aile, ou alors un corps atrophié, elle n'est pas viable, quoi. Donc, le varroa est un problème pour l'apiculteur. Mais l'apiculteur, il faut le dire, a aussi appris à travailler avec varroa et a donc à le combattre. Hein. Donc, nous avons des molécules qui ont des AMM et qu'on a le droit d'introduire dans les ruches, mais hormielées. Donc, à partir de maintenant, voilà, il fait beau, on peut les mettre jusqu'à la sortie, jusqu'à, disons, 10-12 semaines, et ensuite, on les sort. Et au printemps, il n'y a plus rien. Hein. Donc, voilà, ça, on peut faire. Donc, varroa, on a appris à travailler. On a appris à le combattre et chaque apiculteur digne de ce nom le fait. Il n'y a pas de souci. Sinon, il y a risque fort de s'en ressentir au printemps prochain, voire durant l'été. Et la ruche, elle baisse d'activité et puis les abeilles meurent. Par contre, ensuite, ça s'ajoute là-dessus toutes les molécules que nous sortons, c'est-à-dire, il faut quand même savoir que nous avons beaucoup de semences enrobées. Nous avons aussi des molécules que nous traitons, hein, et en plus de cela, l'abeille a un autre gros problème en Alsace, à savoir que l'abeille n'a plus le nectar et le pollen qui lui est nécessaire pour vivre. À un certain moment de l'année, si vous regardez la plaine d'Alsace, ça ressemble principalement, je vais dire, à une mer de maïs. Hein. Encore que maintenant, on assiste à quelques petits changements, puisque on constate qu'il faut quand même aller de l'avant. Ils imposent un peu les rotations de culture, justement, à cause de la chrysomèle. Donc, ce qui fait que, on assiste à quelques petits changements. Mais quand on regarde, l'Alsace, c'est quand même énormément de maïs. Hein. C'est vrai qu'on arrive à faire plein de choses avec le maïs, mais de ce fait, l'abeille, à partir du mois de juillet pratiquement, elle n'a plus de nectar, et surtout plus de pollen, et les seules protéines de l'abeille, en fin de compte, c'est le pollen. Hein. Elle n'en a pas d'autre. Et elle en a besoin pour nourrir ses larves et pour se nourrir elle-même. Et ceci explique peut-être une partie des mortalités que nous avons au printemps, parce qu'elle n'a plus assez, elle n'a plus de nourriture protéinique assez forte pour lui permettre de vivre. C'est comme, par exemple, maintenant, nous, les hommes, nos protéines, principalement, c'est des viandes. Hein. Maintenant, imaginons que nous ne mangeons plus que de la viande, plus rien d'autre. Inévitablement, malgré le fait que nous avons des protéines, notre corps va avoir des carences. Pour l'abeille, c'est pareil, à partir du mois de juillet, elle ne va trouver chez nous plus que du pollen de maïs. Donc, c'est déjà un pollen très pauvre. Hein? Et puis, elle va avoir des carences, elle va avoir des manques, et de ce fait, elle va avoir des problèmes dans la ruche. Hein?
Gros axe, des aspects sanitaires. Donc, des aspects sanitaires, parce que au niveau des maladies, notamment des viroses, on n'a certainement pas tout vu au niveau des viroses. Il y a le varroa. Donc, le varroa, c'est aussi un acarien qui attaque l'abeille et qui attaque l'abeille adulte, comme le couvain d'ailleurs, qui attaque l'abeille adulte comme les larves. Donc c'est le premier parasite qui va attaquer les deux générations. Ce varroa, là, depuis les années 80 en Alsace, on a été les premiers à avoir ça. Et on a des problèmes pour gérer ce varroa. 30 ans après, on ne sait toujours pas gérer correctement le varroa. Donc ça, c'est une chose. Ce varroa, donc, il attaque directement l'abeille, mais il ramène aussi des problèmes de virose parce qu'il attaque la carapace de l'abeille, si on veut. Hein. Et il blesse donc cette abeille, et par ça, c'est une porte d'entrée au virose. Donc ça, c'est un problème sanitaire. On a les problèmes qui sont liés au manque de pollinisation. Donc au manque de pollen, pas de pollinisation, au manque de pollen. Donc la biodiversité, on revient à la biodiversité. Lorsqu'on est sur la grande culture en Alsace, il y a du maïs à perte de vue. Il est certain que l'abeille n'a pas été programmée pour ça. Elle le sera peut-être dans 10 000 ans, mais pour l'instant, elle ne sait pas résister à ça. Donc il y a une perte de biodiversité réelle au niveau de la plaine d'Alsace, comme au niveau même plus haut, hein, parce que les fauches, il y a des fauches tardives qui se mettent en place, mais il y a aussi des fauches qui se font très tôt avec l'ensilage. Donc il y a une perte de biodiversité. Ça, c'est une deuxième chose. Les pesticides, il ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. Ça n'a jamais été bon pour un animal quelconque. Il y a pas mal de pesticides qui sont destinés à d'autres animaux que l'abeille. Donc notamment certains larvicides, mais l'abeille fait aussi des larves et l'abeille est aussi un insecte, quoi. Donc l'abeille est impactée, peut-être pas directement. Alors nous, on met en cause un petit peu les essais de laboratoire, parce qu'entre ce qui se passe dans un laboratoire et ce qui se passe dans une colonie, c'est un petit peu différent, quoi. Mais le fait est que nous, le jugement de terrain derrière, c'est que les pertes ont augmenté d'une manière importante et récurrente depuis au moins une dizaine d'années, quoi.
Dans un pays de tous les temps, la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille portait le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya.
L'abeille est importante pourquoi ? Eh ben pour son rôle qu'elle a dans notre environnement, c'est-à-dire la pollinisation. Hein. Si nous supprimons l'abeille de surface de la terre, demain, un tiers des légumes disparaissent, du jour au lendemain. 80% des fruits, des légumes sont pollinisés par l'abeille. 80%. Ça représente, la pollinisation représente... Si on peut parler chiffres, ça a été chiffré, entre guillemets, par l'INRA d'Avignon, hein, qui dit que cela représente aux environs de 153 milliards d'euros. L'homme, le jour où il n'y a plus d'abeilles, aura certainement beaucoup, beaucoup de mal, parce que l'homme n'a déjà pas l'argent pour faire le travail de l'abeille, n'a pas la possibilité de le faire, et n'a surtout, de toute façon, pas le matériel pour le faire. Parce que nous, on voit l'abeille qui pollinise les haricots, les pommes, les cerises, et voilà, plein d'aliments. Mais il faut quand même savoir que toute la pollinisation des fleurs sauvages qui se fait, qu'on ne voit pas, qui disparaîtrait du jour au lendemain, et qui, quelque part, bah, ça fait partie de la biodiversité, hein. Ça fait partie de notre quotidien. Je dirais même un pissenlit, quelque part, ça a son utilité.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire.
elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles.
La pollinisation, les plantes se multiplient de deux manières. Donc, il faut pour qu'une plante femelle se reproduise, il faut du pollen. Donc, c'est le pollen, donc c'est la partie mâle. Et cette semence mâle est amenée soit par le vent. Donc c'est ce qu'on appelle les plantes entomophiles. Donc c'est soit par le vent, soit par des insectes pollinisateurs. Donc l'abeille est le plus gros insecte pollinisateur. Et avec l'abeille, on estime que l'abeille pollinise environ 80% des plantes, tout au moins les plantes alimentaires. Et reste après d'autres plantes qui sont pas alimentaires, mais qui sont aussi énormément visitées par d'autres insectes. Donc les bourdons, les abeilles sauvages et les papillons. Les papillons rentrent dedans.
Donc si on plante des tomates dans notre jardin et qu'on a des fruits qui poussent, c'est grâce aux abeilles ?
C'est qui poussent peut-être pas, mais qui donnent des fruits et qui donnent des tomates, oui. Oui, c'est certain, quoi. C'est-à-dire que quand on n'a pas de pollinisation, on le voit bien au niveau du... Bon, la floraison du cerisier qui est une floraison tôt, en saison, qui arrive tôt en saison. Lorsqu'on a du mauvais temps, en fait, c'est pas, on n'a pas de fruits ou peu de fruits. Tout simplement, non pas parce qu'il a fait froid, mais parce qu'il n'y a pas eu d'abeilles et pas eu de pollinisateurs qui sont venus butiner, quoi.
La biodiversité, moi je dirais, c'est que... Il faut accepter toute plante, toute fleur, tout animal à son utilité. Et quelque part, je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des herbes qu'on ne veut pas dans son jardin, mais de mauvaises herbes, il n'y en a pas. Hein. Donc la biodiversité, il faut que chacun puisse vivre en étroite collaboration, sachant que chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est pour moi, c'est ça la biodiversité. C'est comme les humains, il faut qu'ils vivent ensemble. Sinon, c'est la guerre. Hein. Hein, vous le voyez dans le monde, il y en a malheureusement pas mal. Non ?
Alors, on butine ?
Imaginons un monde sans abeilles.
Dans ce monde-là, il faut... je pense qu'il faut que chacun pollinise ce qu'il veut manger, sinon il ne mange pas. Il peut se passer beaucoup de choses dans un monde comme ça.
Déjà, tout notre aliment.
Ce sera la fin de l'humanité.
Un monde sans abeilles. Alors je prenais un hamburger. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Prenez un hamburger. Vous voyez ce que c'est. Fromage, œufs, salade, tomates et viande. Supprimer du hamburger tous les aliments où l'abeille a passé. Que vous reste-t-il ?
Le pain.
Le pain. C'est la seule chose. Alors imaginez un monde où vous ne mangez plus que du pain.
Pourquoi ? Parce que les céréales, pour produire le pain, n'ont pas besoin de l'abeille comme pollinisateur.
Le blé n'est pas fertilisé par l'abeille, n'est pas pollinisé. Ce n'est pas une fleur qui a besoin du passage de l'abeille comme la cerise, comme d'autres fleurs, comme beaucoup de fleurs. Hein, le blé n'est pas pollinisé par l'abeille. Hein. Voyez, donc je réponds à votre question. Imaginez-vous un monde sans abeilles. Donc nous ne mangeons plus que du pain. Ça, on n'a pas besoin de l'abeille, c'est vrai. Par contre, il y a beaucoup de choses que nous n'aurons pas, que nous n'aurons plus.
Hein. Pas seulement l'homme, il y a aussi d'autres êtres vivants qui seront concernés par la disparition.
Ah oui, tout à fait. Je parle de l'alimentation humaine, mais tous les aliments consommés par la faune, qui elle aussi va souffrir. Hein. Nous n'aurons plus, ce ne sera plus la même qualité d'aliments, que ce soit pour les chevreuils, le sanglier qu'on en a trop, pour plein de choses. Hein. Même les oiseaux, il n'y aura plus de vers de terre, il n'y aura plus rien. Tout ça va disparaître. Hein. Donc voilà, imaginez un monde sans abeilles. Hein. Je ne vais pas dire, comme disait Einstein, que l'humanité n'aurait plus que 4 années à vivre. Mais quelque part, il avait certainement raison. Hein. Ça mettra peut-être plus de temps que 4 années. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de faire qui font qu'on peut reculer une échéance. Mais tôt ou tard, ce sera inéluctable. Et je dois dire que, heureusement, que ça commence un peu à rentrer dans la... Je ne vais pas dire dans la tête des politiques, hein, mais ça commence quand même à germer, quelque part. Les gens prennent conscience de l'utilité de cette abeille.
Une abeille, un jour de printemps, voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs, dont si douce est l'odeur. pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons aux petits papillons. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. On triomphe toujours. On triomphe toujours.
Sans abeilles.
Ah, je serais pas là. Il y aurait pas grand monde pour écouter la radio. Il y aurait pas grand monde pour la faire non plus. Donc il y a toujours une phrase qu'on attribue à Einstein, hein, qui est la fameuse phrase dans laquelle il aurait dit, parce qu'en fait il semblerait qu'il n'ait pas tout à fait dit ça, mais que si les abeilles disparaissaient, l'humanité disparaîtrait 4 ans après. Une chose est certaine, en tout cas ça bouleverserait complètement notre mode alimentaire. Il y aurait certaines espèces que l'on mange actuellement qui ne seraient plus du tout cultivées et cultivables, donc on partirait sur des choses beaucoup plus simples certainement. Fini tout ce qui est exotique, fini la plupart des fruitiers. Donc on partirait sur des plats beaucoup plus rustiques et certainement des gros problèmes d'alimentation au niveau mondial, quoi.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les citoyens qui ont envie d'avoir des abeilles demain ?
Alors c'est possible, il ne faut pas que ce soit non plus une mode, il ne faut pas que ce soit quelque chose de... le bobo, ce n'est pas fait pour ça. Et c'est quand même un animal, donc la première chose c'est un animal, et d'abord c'est être respectueux de l'animal, donc aimer l'animal, même si on le craint, parce que ce n'est pas évident d'aller voir un animal qui pique, parce que quand même ça pique. Il y a un bouc, par contre, moi je dis toujours, il y a un bouc qui pique et un bouc qui ne pique pas. Hein. Donc ça se prend aussi par le bon bout les abeilles, quoi. Donc on n'est pas spécialement obligé de le prendre par le mauvais.
Ce qu'on constate maintenant depuis quelques années, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes apiculteurs qui viennent. Cela, grâce un peu aux formations que nous faisons, parce que nous faisons quand même dans toutes les sections cantonales des formations qui font venir vers nous de nouveaux apiculteurs. Et ce ne sont peut-être pas des gens qui vont avoir 50 ou 60 ruches, hein. Mais ce qui est important, ce sont des gens qui vont avoir 5 ou 10 ruches et qui vont être là pour la pollinisation de l'environnement dans lequel se situent ces ruches. Et c'est ça ce qui est bien, puisqu'en fin de compte, tout ce que nous recherchons, c'est la pollinisation. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est grâce au travail des différentes sections, des différents présidents dans leur section, qui mettent sur pied des formations, aussi bien théoriques que pratiques, destiné aussi à l'élevage de rennes, parce que il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'élevage de rennes, et c'est une partie de la base de l'apiculture, c'est la renne, hein. Donc c'est aussi pour faire des élevages de rennes de façon à ce que les gens dans leur syndicat, dans leur section, ont des rennes à disposition. Voilà, c'est un peu le sens des démarches que nous faisons, hein. Et ça commence à porter ses fruits.
C'est vrai que c'est intéressant. Nous, en tant que citoyens, donc une des solutions ou une des choses qu'on peut faire pour favoriser la pollinisation, c'est effectivement s'intéresser à l'apiculture et puis essayer d'avoir quelques ruches dans son jardin. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aider l'abeille.
Mais sinon, dès qu'on a un petit peu plus de terrain et qu'on a un petit endroit qui n'est pas spécialement valorisé ou valorisable, plutôt qu'aller s'embêter à le tondre, c'est laisser justement les quelques dizaines de mètres carrés là-bas qui sont derrière à l'état naturel. Rapidement, on va se retrouver au bout de quelques années des plantes qu'on ignorait complètement. Donc, ils vont revenir à l'état naturel. Hein, donc, transport par le vent, transport par les oiseaux. Les choses qui vont revenir, il y a toute une richesse qui va être faite là-dedans. Et en général, les gamins adorent ça parce que justement, ils vont voir des scarabées qu'ils n'ont jamais vus. Ils vont aller voir des bourdons, des papillons. C'est sympa, quoi.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que citoyen. Déjà, utiliser moins de produits insecticides. Ce n'est pas parce que vous avez des produits de conservation autour de la pomme que la pomme se conservera mieux. Hein. Et les gens s'imaginent que quand on va acheter un produit, on peut acheter un produit qui a des petites taches, qui n'est pas uniformisé, qui n'est pas rose à gauche, jaune à droite, et ainsi de suite. Non, il faut pouvoir accepter des fruits qui ont des malfaçons. Hein. Ben voilà, ce sont des fruits qui n'auront peut-être pas eu de produit de traitement. Et c'est mangeable. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que ce n'est pas mangeable.
C'est même mieux pour la santé.
Au contraire. Hein. Voilà. Mettre des fleurs, fleurir un peu son parterre chez soi. Pas forcément mettre des abeilles. L'abeille viendra déjà. Hein. L'abeille va dans un rayon de 3 à 4 km de sa ruche. Hein. Donc, les abeilles qui sont à 500 ou 1 km d'ici, elles viendront déjà chez moi. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de mettre d'abeilles ici. Hein. Hein. L'abeille va déjà trouver sa source de nectar. Hein. Voilà ce qu'on peut faire chez soi, mettre des fleurs. C'est joli, ça occupe l'espace et ça en service.
Et c'est possible, donc dans toutes les, peut-être pas dans tous les villages, mais en tout cas dans tous les cantons, il existe des syndicats d'apiculture. Donc en Alsace, ça s'est beaucoup développé. Il existe des syndicats d'apiculture. Il faut prendre contact avec ces syndicats. Donc déjà, en allant voir la mairie, on sait s'il y a un syndicat dans le village ou dans le canton. On rencontre quelqu'un au syndicat et on essaye de rencontrer un passionné. Et pour rencontrer les passionnés, évidemment, il faut avoir une passion commune. Donc il faut aller voir. Et puis souvent, il y a quelqu'un qui vous dit, si vous voulez, samedi ou dimanche, je vais ouvrir une ruche, si ça vous intéresse, vous venez avec. Donc moi, j'ai commencé comme ça simplement en aimant, d'abord en aimant le miel aussi. J'aimais le miel, j'aimais l'abeille sans la connaître, et puis j'ai appris à la connaître, et puis j'en ai fait mon métier quelques années après, quoi. Puis on est passé maintenant à beaucoup de ruches, quoi.
Pour quelqu'un qui veut plus d'informations ou s'enseigner,
Il y a une fédération d'apiculteurs. Donc il y a une fédération, il y a deux fédérations d'apiculteurs dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Il y a une confédération d'apiculteurs aussi. Donc, le plus simple, c'est quand même passer par les syndicats. C'est ce qu'il y a de plus local. Donc, c'est la personne qui est à côté de chez vous, ou qui parfois a des ruches sans que vous le sachiez. Quelqu'un qui habite à 100 mètres de chez vous et qui a trois ruches au bout du jardin, quoi.
Merci, Eric.
Voilà, merci. Au revoir.
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la terre tournent plus rond.
À nous, citoyens, de fleurir nos jardins pour un plus beau lendemain. Découvrir l'apiculture vous intéresse? Il suffit de prendre contact avec le syndicat d'apiculteurs le plus proche de chez vous. Pour plus d'infos, www.sauvonslesabeilles.com.